La semaine passée, on a déjà un peu parcouru le Mexique. On a essayé de découvrir cette nation immense, ces États-Unis du Mexique avec leurs 30 et quelques États, avec des régions très différentes les unes des autres. N'importe quel État normal permettrait déjà de contenir plusieurs cantons suisses. C'est 4 fois la France, c'est, je sais plus, 49 ou 50 fois la Suisse. Ça, c'est déjà simplement pour montrer que de manière complètement subjective, on a fait des choix qui sont des choix touristiques. C'était le cas de la dernière fois, puisqu'on est parti de Mexico, on a fait Teotihuacan, nous sommes allés au Yucatan, et qu'on est arrivé maintenant dans les Chiapas mexicains qui auparavant appartenaient au Guatemala et qui sont un peu le dernier tampon avant le sud. On est à quelques kilomètres du pays suivant, de cette petite république voisine du Guatemala. Alors j'ai choisi San Cristobal comme point de départ parce que San Cristobal, c'est un peu le stéréotype de cette petite ville coloniale. Alors comment est-ce qu'on découvre San Cristobal? Quand on est à l'intérieur, ce sont des rues assez étroites avec des trottoirs de 30 à 40 cm de hauteur, parce que quand il pleut vraiment, on est bien content d'avoir un trottoir pour ne pas avoir les pieds trop mouillés. Et puis ce sont des maisons très basses, un étage, avec des toits de tuiles à la romaine, qui descendent très bas naturellement, avec des couleurs très vives, rouge, bleu, jaune, et qui monte en tous sens, comme ça, du côté des collines. Au centre, une petite place sympathique, la cathédrale, une cathédrale un peu en sucre, travaillée sur des tons jaunes, avec une sculpture profonde et baroque en relief. Une très belle église, celle des Dominicains, un peu plus haut, qui elle est encore travaillée de manière plus sauvage, avec des grosses colonnes salmoniques, et puis des mouvements des petits angelots. Ça, c'est la belle époque coloniale mexicaine. Puis un tout petit peu plus haut, le marché. Alors le marché, c'est une explosion que aucun touriste ne peut éviter. Vous me direz, c'est pas normal qu'un touriste puisse venir sans autre sur un marché aussi impressionnant que celui de San Cristobal. C'est un marché à protéger visuellement. C'est vrai que le touriste aura envie de prendre des photos, mais San Cristobal est un lieu métis, est un lieu différent de tout le reste du territoire qui l'entoure. Donc en fait, même si je suis touriste à San Cristobal et que je viens voir ce marché parce qu'il y a 50 ethnies différentes, 50 sortes, si j'ose dire, d'indigènes qui sont réunis ici, 50 costumes indigènes différents, eh bien, je suis en droit d'y être parce que je suis du côté de ceux qui tiennent le pouvoir commercial et qui sont les habitants métis de cette ville. Donc je fais partie des mauvais, je fais partie des méchants, de ceux qui, depuis la colonie, ont toujours exploité toute cette région. Donc un touriste ne se sent pas trop mal à l'aise dans un marché comme celui de San Cristobal, mais c'est vrai que la femme ou l'homme métis qui vient marchander, qui vient prendre une partie du bien indigène, à vil prix s'il le peut, il n'a pas forcément un appareil de photo en main, ça c'est vrai. Ce qui fait que si par hasard on a une petite agression, une petite agressivité de la part de l'Indien, je crois qu'il faut le comprendre. Ce qu'il faudrait surtout, c'est que par un sourire ou par un essai de discussion, on essaye quand même de demander, pourquoi pas. J'avoue que je défends toujours beaucoup quand je suis accompagné comme ça, parce que je ne me cache pas d'être conférencier, mais en même temps guide touristique. J'essaye toujours d'expliquer ce contact étrange de la photo avec l'indigène. C'est valable dans le monde entier, mais ici c'est un peu spécial, parce que l'Indien des Chiapas à conserver des coutumes qui nous troublent. Plus on les creuse, plus on va les trouver complètement incroyables et complètement précolombiennes.
Rayando el sol, me despedí bajo la brisa. Y ahí me acordé de ti llegando al puente, del puente me devolví bañada en lágrimas, las que derramé por ti. Qué chulos ojos los que tiene esa mujer, bonitos. los moros, los que tiene pa' querer, que por ahí dicen que a mí me robó el placer. Ay, qué esperanza que la dejé de querer.
La photographie, c'est bien sûr le fait de prendre un morceau de l'anima de l'indigène ou de l'enfant qui est à côté de lui. Parce que, prenons un simple cas. Imaginons qu'on forme une petite société et que nous parlions une langue. Cette langue, c'est une carte d'identité. On porte un costume, c'est une autre carte d'identité. Une carte d'identité qui a été imposée par les Espagnols, parce que lorsqu'ils sont arrivés à San Cristobal, qu'ils ont fondé cette ville dans cette petite vallée, eh bien, aux alentours, il y avait déjà des millions d'indigènes, mais qui ne vivaient pas dans des hameaux. Ils vivaient autour de centres cérémoniaux qui, eux, étaient, en somme, des points d'ancrage pour les fêtes seulement. Et les gens étaient répartis avec des petites huttes partout dans la montagne, puisque là, on est dans une région qui ressemblerait plutôt au Jura. Hein. Visiblement, ça ressemble au Jura parce qu'il y a des conifères, il y a un climat, il peut faire très froid. Même en plein été, la température descend facilement à 10, 12, 15 degrés. Et la nuit, il peut geler pendant plusieurs mois par année. Donc, c'est un lieu que les Espagnols vont occuper volontiers parce qu'il ressemble un peu à la fraîcheur européenne. Et là, ils vont créer des réductions. Ils vont mettre les Indiens dans des villages qui ont été complètement reconstitués. Ils vont les obliger à occuper leurs anciens centres cérémoniaux. Le centre cérémonial, c'est une place avec quatre côtés. Il y avait une pyramide qui est remplacée par une église. Donc, on recrée le carré qui est le plateau du monde. Je crois qu'on en avait parlé dans la toute première émission lorsqu'on avait parlé du mât avec les hommes volants et qu'on avait refait la forme du monde. Eh bien, l'Indien fait la même chose. Il a une structure qui est la place principale, cette église qui est un peu la pyramide. Et puis à l'intérieur, c'est Dieu, donc c'est saint, et particulièrement le saint qui porte en fait le nom du village. C'est-à-dire il y a Saint-Pierre Cenalo, comme il y aura Saint-Jean Chamula, comme il y aura Saint-Laurent Tsinankantan. C'est donc le saint qui sera fêté dans le courant de l'année, Saint-Laurent le 10 août, Saint-Juan le 24 juin, Saint-Pedro Cenalo le 29 juin, et qui en même temps va représenter pour chaque communauté le Dieu créateur de cette communauté. Donc une nouvelle carte d'identité, mais divine. maintenant, on a déjà dessiné une sorte de diagramme autour de San Cristobal. On est parti du marché, hein, faut pas l'oublier, nous étions au marché de San Cristobal. Mais il faut déjà savoir que les 50 ethnies qui sont là, dans ce marché, proviennent de ces 50 hameaux qui eux-mêmes sont découpés en plus petits hameaux, mais qui se regroupent tous autour de l'église principale, de l'église unique, du centre cérémoniel, comme à l'époque précolombienne. Alors, ils viennent de l'extérieur, ils viennent échanger leurs produits ici. Alors, moi, je parlais de la photo, parce que la photo, c'est une mainmise sur l'image de l'indigène. Parce que ce qu'on oublie, c'est s'il a ce monde bien structuré, comme je viens de le faire géographiquement par rapport au village, lui-même est structuré de la même manière. Un indigène porte un nom d'animal. Il porte le nom du jour de sa naissance. Il a un double animal. Il a un destin en fonction du temps et du jour de sa naissance. Il porte un prénom chrétien, un nom de famille chrétien, mais également un nom indigène. Donc vous voyez le nombre de cartes d'identité que ça représente déjà dans la tête de l'Indien, ce qui veut dire que la chose la plus fragile dans toute cette histoire, c'est son âme, c'est son anima. Quand vous naissez, vous avez un double animal. Si vous tuez le double animal, vous mourrez. Si le double animal est malade, vous êtes malade. Si en plus, on atteint votre tchoulel, c'est une âme un peu intangible, un peu difficile. Certains Indiens la voient dans le genou, d'autres la voient dans le cœur, d'autres la voient dans la tête, c'est vrai. Eh bien, il suffit par exemple qu'une femme qui porte son bébé traverse une rivière et que la rivière coule un peu trop vite, et hop, le tchoulel peut partir avec la rivière. Si la femme tombe avec son bébé sur le dos, elle va revenir pendant plusieurs mois au même endroit avec une branche de pin en forme de croix. Et là, ça n'a rien à voir avec le christianisme, c'est la croix de vie précolombienne. Elle va venir prier, faire de la magie, de la sorcellerie s'il le faut, afin d'être sûre que l'âme de son enfant revienne et qu'elle se refixe dans ce corps, parce que cette âme, à cet âge-là, est encore trop fragile et qu'elle peut s'échapper du corps. C'est pour cela qu'il y a des maladies infantiles. C'est pour cela qu'il y a des morts avant l'âge de 5 ans. Donc on voit à quel point il y a délicatesse, par méconnaissance, à photographier ces gens-là. On est des rivières en puissance, on est la chute en puissance, simplement en prenant une photographie sans autorisation d'un bébé qui est auprès de sa mère sur un simple marché comme celui de San Cristobal. Alors là, obligatoirement, si la tomate arrive en retour, c'est l'agression majeure pour l'indigène qui est extrêmement doux, bizarrement, dans son agressivité. Mais la seule chose qu'il va vraiment faire, c'est cacher son enfant à votre regard pour éviter justement le mauvais œil qu'il apprend une importance tout à fait différente. Et ça peut être un mauvais œil de photographe. Alors maintenant qu'on est à San Cristobal, qu'on a visité le marché, ce qui est intéressant, c'est de suivre ces Indiens et d'aller peut-être voir un peu chez eux comment ils fonctionnent.
Estrella sin una paz.
Ce qu'on a dit pour San Cristobal, c'est qu'il y avait des métis. Alors, je suis toujours embêté quand j'utilise en français le mot métis, parce que pour San Cristobal, il faut utiliser le mot ladino. Le mot ladino, ça signifie simplement qu'on n'est pas indígena o indio. Ça veut dire qu'on se considère comme différent. J'ai un porte-monnaie. Je fais du commerce. J'achète et je vends. Je fonctionne comme catholique. Je vais à l'église. J'ai une municipalité. Ça, c'est le ladino. Je porte un costume normal, des blue jeans. J'ai fait un choix de société. Je suis du côté des colons et je me suis assimilé ou j'ai été assimilé à ce milieu-là. Donc, je suis effectivement un métis, mais qui peut être blanc, métis, ou presque indigène dans sa couleur. Et de l'autre côté, il y a un indigène qui a souvent été métissé, qui lui s'affirme comme indien avec un costume indigène, une mentalité indigène, un monde indigène, des dieux indigènes. Donc toute une fonction mentale différente. Donc c'est plutôt une question d'identité que de réalité. Alors ça va loin, parce qu'on est à la fin de notre petit périple au Mexique. Mais vous aurez compris que même dans un système d'énergie et d'économie, le précolombien ne fonctionne pas du tout comme nous. Et comme il ne fonctionne pas comme nous, il va effectivement refuser tout un tas de choses que nous avons. Pourquoi est-ce que l'Indien a toujours utilisé le troc? Parce qu'effectivement, son système est un système d'échange énergétique. Pourquoi est-ce que l'indigène, par exemple, refuse de faire du commerce, c'est-à-dire d'ouvrir une boutique et de vendre des produits locaux ou même des produits métis, si vous voulez, nos produits à nous, dans son propre village, dans sa propre communauté? Mais parce que ce genre de dépenses énergétiques et de fonctionnement ne peut appartenir qu'à un monde étranger. Donc il va inviter un métis pour ouvrir un magasin dans son village, mais lui ne fera jamais de commerce. Et lui va fonctionner au contraire sur des systèmes d'autorité qui, eux, vont payer des fêtes énormes, être choisis dans des confréries particulières, et à partir de là, dépenser, une fois de plus, son alcool, ses pétards, tout ce qui fera l'offrande à ses dieux, dans un but complètement différent. Et je le répète, j'appelle toujours cela de l'économie de la pauvreté, parce que l'Indien est incapable de concevoir l'enrichissement tel que nous l'avons. Alors, déjà rien que cela, quand vous avez plusieurs centaines de milliers d'Indiens qui pensent comme cela, près d'une petite ville de 50 000 habitants, on comprend à quel point dans l'histoire il y a pu y avoir des conflits et que souvent ils sont carrément descendus sur la ville et qu'ils ont voulu l'envahir. Les plus grandes révolutions indigènes ont eu lieu dans cette région. Si vous voulez partir de San Cristobal pour aller voir un village indigène, il n'y aura pas 36 000 solutions. Il y aura soit un transport public qui aura été acheté par un groupe d'indigènes qui s'associe ou qui s'assimile au monde ladino, comme on l'a dit, soit vous prenez un transport qui a été acheté et conçu à San Cristobal et qui, lui, ne fera que l'aller-retour pour ne mener les Indiens qu'à leur village et puis ensuite les laisser sur place. Alors ça, c'est assez étrange de voir ce conflit parce que tout à coup, vous avez à San Cristobal des dizaines et des dizaines de petites camionnettes qui sont toutes conduites par des Indiens habillés en rose et en bleu, avec un chapeau avec des rubans superbes, un chapeau très plat, avec toute une multitude de rubans colorés qui partent du centre. Et selon la façon dont ces rubans sont attachés, on sait si on a affaire à un célibataire ou pas. Attention, ça peut toujours rendre service pour les belles Indiennes à marier. Et ces gens de Tzinankantan portent des cotonnades, comme je l'ai dit, de couleurs très, très douces. Et ce sont les horticulteurs. Donc pour être horticulteur, il faut déjà avoir des terres chaudes. Et eux vivent sur la partie qui redescend vers la capitale de l'État, Tuxtla, qui est à 300 mètres d'altitude, 200 mètres. Et puis, on était tout à l'heure à San Cristobal en train de claquer les dents à 2500. Alors, c'est un territoire énorme qui va, par le fait qu'ils sont horticulteurs, les obliger à vendre leurs fruits et leurs fleurs, bien sûr. Ils sont aussi maraîchers. Et à faire du commerce. Donc, ils se sont beaucoup plus rapidement assimilés au système hispanique. C'est intéressant de parler de ceux de Tzinankantan parce que tout le monde les connaît. Quand on va à San Cristobal, on les repère très bien, ces Indiens roses et bleus. Et une autre chose qui surprend, ils sont très grands. On voit qu'ils sont riches et ils ont une autre attitude devant les choses et la vie. C'est tout simplement parce qu'au XVIe siècle, les gens de Tzinankantan faisaient partie de la tribu de la chauve-souris, puisque c'est un peu le nom de leur communauté, et que ces indigènes-là ont été les seuls, comme les Tlaxcaltèques, pour Cortés, quand il arrivait à Mexico, à aider les premières invasions, c'est-à-dire à aider le conquérant à prendre tout ce morceau du Mexique. Donc, ils ont été récompensés en pouvant conserver les meilleures terres. Donc, depuis le XVIe siècle, ils n'ont fait que s'enrichir et s'améliorer. Alors, je donne un seul exemple. Il y a eu un conflit au cours de ces dernières années, parce qu'obligatoirement, étant plusieurs dizaines de milliers, ils représentent un pouvoir économique très fort face au pouvoir de notre petite ville de 50 000 habitants qui, elle, est peuplée de ladinos. Il y a quelques années, il y a eu un conflit interne, et leur église, c'est celle de Saint-Laurent, c'est vrai que c'est la plus riche, elle est superbe, elle est décorée en noir et blanc, enfin, on retrouve cette qualité des églises dominicaines. Eh bien, eux, pour régler leur sort politiquement, économiquement, pour les remettre au pas, on a incendié leur église. Donc on a brûlé la pile, le pouvoir, le centre énergétique de toute la communauté. Il a fallu 5 ans pour que financièrement ils s'en ressortent. Et ils puissent enfin avoir la plus belle église de la région. Donc ils ont tout reconstruit, tout recommencé. Mais simplement pour vous montrer que là, j'ai situé un premier conflit entre San Cristobal et un village qui n'est pas vraiment un village, qui est une succession de petites communautés. Et puis je prendrai un autre exemple, parce que là on vient de prendre une camionnette avec des indigènes, tous ces systèmes de combis qui fonctionnent entre Tzinankantan et San Cristobal. Et puis maintenant, on pourrait prendre un autre transport qui, lui, nous amènera, ou plus exactement, aller à pied, parce qu'ils sont encore majoritaires à marcher, et aller à Chamula. À Chamula, ce sont des gens minuscules. Ils font 1m50 de haut. Ils sont habillés uniquement avec des laines, des grosses laines noires, des ponchos. Ça vous simplifie la vie. On appelle ça des sarapés dans la région. Les femmes avec une simple petite blouse bleue, une grosse jupe également de laine, très rude, tout à pieds nus. Et puis autour, quelques petits troupeaux de moutons dans un terrain comme ça, extrêmement délaissé, qui ressemble à un pâturage, juste quelques petits jardins, quelques petits pêchers, quelques petits arbustes, et aucun commerce. Ou plus exactement, quelques encensoirs qu'ils échangent, et puis leur laine qu'ils offrent à d'autres. Alors pourquoi ici la laine, pourquoi là-bas les fleurs? Eh bien simplement parce que leur village s'appelle San Juan Chamula, San Juan Bautista. Saint Jean-Baptiste a toujours porté un petit mouton sur ses bras, donc le mouton est l'animal de ce village. Et Chamula va respecter le mouton de Saint Jean-Baptiste, son créateur, il ne faut pas l'oublier, son saint patron, celui qui a vécu avant Jésus, donc qui était là avant que le soleil existe sur la terre, qui était le feu qui s'allumait le soir et qui permettait d'éclairer la nuit. Ils y pensent, ils savent qu'ils ont un des dieux les plus anciens du monde, le dieu du feu, sous la forme de Saint Jean-Baptiste. Et comme Saint Jean-Baptiste tient un mouton, et que le mouton n'est pas précolombien, mais qu'il est espagnol, personne ne mange de mouton, et le mouton meurt, comme un homme, sans qu'on ose le tuer, simplement parce qu'il est protégé par son dieu.
llegado.
Alguien no han podido ver.
No viene a pedirles miedo.
Ni a qué darles a beber.
Solo a comprar algo un rato.
Digan si me han de vender.
Hay dos vacíos más toda la vida amenando.
Arroyo de buena vista.
¿Qué pasa por San Fernando?
Tú te morirás de celos.
Y yo seguiré paseando.
Ay, no más y ándale. Lo cobarde,
con sentimiento y dolor,
se lo dicen a la madre,
acuérdese del amor,
que tú busque a mi padre.
Ay, no más y no más, calle de la polvadera.
Ay, qué bonito es tener
un brazo de cabecera.
Ay, qué bonito es el mundo.
Lástima que yo me muera.
Ay, no más y ándale.
La distance qui nous séparait tout à l'heure de Saint-Cristobal de Tsinakantan, c'est 10 km. On a vu ce côté un peu bon chic, bon genre. Et puis là, on arrive effectivement à Tchamoula. Alors Tchamoula, c'est l'opposé. Les gens de Tsinakantan sont farouches. Mais ils ont ce côté altier, riche. On a l'impression que sans communiquer, on est au même niveau. C'est-à-dire qu'ils portent une belle montre bracelet, de belles chaussures et de beaux blue jeans très clairs. Enfin bleu, bien sûr, puisqu'ils mettent cette espèce de chemise rose et blanche et bleue sur eux. Et quand on arrive à Tchamoula, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas le même monde, ils peuvent pas être à 10 km l'un de l'autre, parce que ça forme une sorte de triangle avec San Cristobal. Alors, Tchamoula, c'est la seule église qui existe pour tous les habitants qui sont ceux de San Juan. C'est-à-dire qu'il y a une église pour 80 000 habitants, mais il y a 56 petits hameaux sans église. Ce qui nous montre bien qu'ils ont gardé complètement l'idée précolombienne du centre cérémoniel et que cette église est la porteuse de tous les pouvoirs et qu'à l'intérieur il y a tous les saints. Et quand ils font leur carnaval, qui n'est pas un carnaval, qui est l'ouverture de l'année maya, bien sûr, l'année agricole, on voit que les quartiers sont encore occupés par des points cardinaux, qu'ils vont prier auprès des sources et qu'au bout de chaque hameau, de chaque région du village, ils placent trois croix qui ne sont pas des croix, qui sont des plantes qui poussent comme le maïs avec des grosses boules au bout. Donc ainsi, on marque mentalement les frontières de l'endroit. Alors ça, ce sont des gens beaucoup plus farouches qui s'affirment tous catholiques et qui défendent véritablement leur entité indigène, leur formulation indigène. Eh bien, pour donner un autre exemple, on a eu le même cas. Pour des raisons politiques et économiques, on a également souvent fait retomber à plat la puissance de ce village. Ça reste la communauté la plus forte de tous les Chapas. Ce sont les seuls qui ont attaqué plusieurs fois, envahi San Cristobal de las Casas. Ce sont les derniers à avoir sacrifié des humains. Ils ont sacrifié effectivement un enfant en le clouant sur une croix pour être sûr d'avoir eux-mêmes leur propre Christ de couleur. Ça, c'est totalement précolombien. C'est totalement catholique dans leur esprit à eux. Alors, ces formulations qui nous paraissent très puissantes vont très très loin aujourd'hui. On a tué effectivement leur gouverneur, c'est-à-dire leur chef spirituel et politique, bien sûr, parce qu'il avait un pouvoir énorme sur la région et qu'il refusait d'entrer dans le jeu, comment le dire pour ne vexer aucun Mexicain, dans le jeu municipal. C'est-à-dire que bien sûr, il n'y a pas d'idée municipale. Il y a des pyramides de pouvoir religieuses, des pyramides civiles, mais on grimpe les échelons au fur et à mesure de l'existence. Et ça n'est pas vous qui voulez monter l'échelon, c'est vous qu'on désigne pour être autorisé à monter dans ces échelons. Donc en fait, le pouvoir est également tenu par les sages et les anciens. Donc chacun qui a eu, dans le courant de son existence, une charge importante, est capable de porter sur lui les insignes de ce pouvoir jusqu'à sa mort. Des rubans de couleur, par exemple, un autre chapeau. Et puis, pendant le temps qu'il a le pouvoir, un bâton de commandement qui est donné justement par son créateur, qui est Saint Jean-Baptiste. Imaginez-vous, on laisse ce bâton toute la nuit lors de la passation des pouvoirs à l'intérieur de l'église pour qu'il soit rechargé de pouvoir. Et quand l'Indien le reprend pour le passer au suivant, il met un mouchoir autour du manche, il y a un pommeau d'argent, comme dans un bâton espagnol, si vous voulez. Mais il met un petit mouchoir rouge, vous savez, ces petits mouchoirs qu'on met autour du cou, pour protéger le bâton afin qu'on ne touche pas la puissance spirituelle de ce bâton qu'il va ensuite recevoir pendant une année et qu'il va porter de cette manière pendant une année. Il y a tout un côté sacralisé pour des gestes qui nous paraissent très simples et qu'on ne voit pas du tout au départ et qui correspondent tout à fait à cette communauté qui a une défense tout à fait remarquable et unique d'ailleurs au Mexique. Quand je vais à San Cristobal, bon, ça fait bientôt 20 ans que j'y vais, involontairement, j'ai aussi créé des contacts. Donc, sans connaître le chef de la confrérie un tel, le presidente un tel, etc., on n'est même pas autorisé à circuler de manière normale. Je vous donne un cas. Vous êtes touriste. Vous prenez votre taxi, un bon touriste moyen, vous montez dans mon bus et on va ensemble à Chamula. En principe, j'y vais plutôt à pied. Je trouve que c'est beaucoup plus sympathique d'aborder cette région montagneuse comme ça, en faisant les 10 km très tranquilles de piste, en suivant les Indiens qui rentrent du marché d'ailleurs. On est déjà mieux assimilés, les gens nous regardent différemment, on arrive dans le village, non pas comme une délégation touristique qui débarque et qui attaque le morceau, mais en choisissant par exemple une petite fête. Parce que c'est vrai qu'une cour vide ou une immense place vide, ben, on voit beaucoup plus l'étranger que si on arrive quand il y a 20 000 personnes en train de faire une fête. Alors la première chose qu'on doit faire, c'est aller saluer les autorités. Et ça se fait de façon tout à fait ritualisée, ils sont tous là, parce que les autorités d'un village s'offrent à leur village pendant une année sur le plan énergétique. Donc, ils sortent de leur hutte et ils vivent dans des huttes rituelles qui n'existent que dans ce village, qui n'est fait que de huttes pour les autorités. Et en une année, ils vont donc ainsi faire marcher le grand moteur du village. Donc, vous les saluez, ils vous donnent une autorisation spéciale, vous payez votre droit, parce que maintenant ils sont aussi rentrés dans notre système, pour vous protéger, pour nous protéger. C'est-à-dire que vous payez un droit afin qu'on vous mette avec un policier et qu'on vous accompagne jusqu'à l'église et qu'on vous empêche de prendre des photos dans l'église. Parce qu'au dernier carnaval, on a tué deux Allemands qui, eux, n'ont pas respecté cette règle. On les a simplement tués à coups de bâton. Donc il y a une violence absolument époustouflante dans tout ce qui touche la religion, bien sûr, mais tout ce qui correspond à la bousculade d'un monde vers un autre. Ils refusent totalement, eux-mêmes, de rentrer dans notre monde. On est loin de ceux qui portaient le costume rose et bleu de tout à l'heure. Leur économie est totalement inversée par rapport à la nôtre. Ils refusent l'enrichissement. Ils dépensent un maximum et on oblige les riches à devenir pauvres en payant des fêtes. Ça, c'est Chamoula. Ils s'affirment tous catholiques. C'est un des plus grands drames que nous vivons actuellement dans les Chiapas. Il y a maintenant des milliers de réfugiés religieux qui ont dû quitter la communauté de Chamoula et vivre dans les nouveaux bidonvilles qui n'existaient pas du tout. Ou des Américains, parce que ce sont eux, bien sûr, qui amènent la nouvelle religion ou la nouvelle secte protestante nord-américaine et qui évangélisent ces gens-là, qui déstabilisent volontairement ces gens-là, et là je pèse mes mots en le disant, et qui en fait sont ensuite obligés d'acheter un terrain, d'offrir des maisons préfabriquées pour pouvoir placer les réfugiés religieux dans ces endroits-là, et eux, comme des pestiférés, vont créer des espèces de ghettos à l'intérieur d'un milieu qui auparavant était totalement catholique. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas réformé. Je sais choisir mon côté quand il le faut, mais je veux dire par là que c'est assez terrifiant de remarquer qu'on est en train de déstructurer complètement une région, simplement, avec cette nouvelle formulation évangélique. Parce que Chamoula refuse totalement. Alors vous avez les réfugiés qui vont dans les autres communautés. Moi je vais toujours chez un petit prêtre, par exemple, qui s'occupe de médecine, et qui est un prêtre ouvrier de la région de Paris, et qui est établi là-bas depuis 20 ans, et qu'on a voulu tuer je ne sais combien de fois, parce qu'il vit dans un village où il y a à la fois des métis et à la fois des indigènes. Vous avez une rue principale, avec 2000 habitants métis, et autour, vous avez 20 000 Indiens qui résident dans les montagnes, et cette région extrêmement dense et extrêmement riche. Donc des conflits constants. Le maire de cette commune est indien, vit dans le village métis, et a toutes ses autorités indiennes avec lui. Et quand un Indien sort faire une procession avec le saint de l'église du village, il y en a deux, il y a souvent ce côté dualiste, eh bien, aucun métis ne regarde passer la procession. Et le jour d'après, le prêtre en fait une messe pour les métis qui ressortent le même saint qu'ils ont changé et déshabillé, puisqu'avant il était habillé en indien, maintenant il l'habille en métis, et ils refont le tour du village, et aucun indien n'est présent. Donc vous voyez à quel point les mondes se découpent. Et c'est vrai que l'état des Chiapas est un des réservoirs de conflits et de compréhension du futur mexicain, qui est peut-être un des plus fascinants.
Tierra de luz, tan bella como no hay dos, es mi lindo Veracruz, tierra bendita de Dios. En todita la región se oyen alegres cantar y se acoplan con el son entre arroyo del palmar.
Yo le canto con amor
a mi tierra tropical.
Qué bonito es Veracruz,
nunca lo podré olvidar. Comienza el pandango, ya se empiezan a afinar. Se arrancan con un guapango y se ponen a cantar. Allá por la madrugada se toca por re menor. Unas muy dulces tonadas inspiradas con amor.
Yo le canto con amor
a mi tierra tropical.
Qué bonito es Veracruz,
nunca lo podré olvidar. Cantando con alegría, se pasan los trovadores toda la noche y el día. Sin que falte la jarana, para acompañar el sol. Música veracruzana te llevo en el corazón.
Yo le canto con amor
a mi tierra tropical.
Qué bonito es Veracruz,
nunca lo podré olvidar.
Yo le canto con amor
a mi tierra tropical.
Qué bonito es Veracruz,
nunca lo podré olvidar.
Alors c'est vrai que pour aller voir le mon petit père Michel, je peux bien le nommer parce qu'il le mérite, d'autant plus que ça, j'aime bien lui donner un petit coup de main de temps en temps, c'était de lui apporter des vêtements ou des médicaments, ou alors carrément de temps en temps, j'ai réussi à trouver des touristes qui au départ étaient des touristes culturels et qui finalement ont accepté de vivre 10 jours dans cette communauté, ou 15 jours, et puis de donner un vrai coup de main. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que des gringos, parce qu'on est terriblement gringos dans ces cas-là, qu'est-ce que 10 ou 15 gringos vont faire de valable dans un village indigène où on pourrait avoir toutes sortes d'aides différentes? Et il y en a. L'Institut national est là, l'Institut indigéniste est là, la médecine telle est là, les protestants dont on parlait essaient d'être à côté, il y a une autre école qui est encore soutenue par un autre mouvement. Il faut bien comprendre que ces régions sont souvent... Il y a l'UNESCO, il y a l'UNICEF, enfin il y a toutes sortes d'organismes internationaux ou nationaux. Et ce village n'est pas un cas unique. Mais simplement pour dire, ce prêtre est là au milieu... Et il doit s'arranger pour fonctionner avec un peu tout le monde. Hein. J'ai situé le nombre de personnes. Mais ce qui est aberrant, c'est de voir que ce village est dirigé par des Indiens parce que c'est la coutume, et que les métis ne sont que des invités de ces Indiens, et pourtant ce sont ces métis qui détiennent le pouvoir. Alors vous allez vous poser la question, mais que vont faire, et on le répète, ces gringos qui vont donner un coup de main? On s'est rendu compte avec le père Michel que bon, sur le plan financier, on peut faire quelque chose. La première fois que j'y suis allé, c'était avec des Genevois d'ailleurs, et qui j'avais plus ou moins choisi en toute amitié. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait un ingénieur, qu'il y avait un architecte, enfin qu'il y avait des gens de métiers très différents et qui étaient très concernés parce qu'ils avaient déjà voyagé 10 fois avec moi, ils parlaient déjà l'espagnol, où on se comprenait très bien. Enfin, c'est vrai qu'avec une dizaine de voyages à 3 semaines, on finit quand même par se connaître un peu mieux. Et on avait décidé d'aller chez lui parce qu'il l'avait déjà compris, c'était quelqu'un d'un peu exceptionnel, ce père Michel, qui nous ouvrait un petit dortoir, et puis en contrepartie, on essayait de faire quelque chose. Alors faire quelque chose, ça signifie simplement s'intéresser à un produit que ni l'indigène, un problème plutôt, que ni l'indigène, ni le métis ne veut ou ne peut résoudre. Alors nous, par exemple, c'était le problème des eaux. Usée, eau claire, détournement d'eau, inondation dans le village, enfin des problèmes tout simples. On avait fait une superbe route derrière le village, on avait mis des gros tuyaux dessous, et toute l'eau de la montagne descendait sur la place principale. Bon, avec un simple ingénieur et un architecte, on se rend compte qu'il suffit de boucher les tuyaux, de faire une canalisation dernière, et puis tout ça va s'écouler gentiment dans la rivière. Donc après, on a encore eu d'autres aides, des petits amis français qui sont venus finir les fouilles, etc. Mais simplement pour vous montrer que même en partant d'un fait touristique, on peut très bien tout à coup être une troisième force. Je ne dirais pas que c'est toujours positif. Je ne pense pas qu'une aide ponctuelle dans un endroit soit toujours bonne. Enfin là, en l'occurrence, c'était aussi une façon assez extraordinaire de faire partager à des Occidentaux les réalités du tiers-monde. Et je n'ai jamais connu personne partant de chez le père Michel sans avoir une larme à l'œil. Alors cette larme à l'œil, c'est pas de la nostalgie, c'est pas si simple que cela. C'est un vrai côté du Mexique, c'est une réalité qu'on vit goutte à goutte, avec des conflits énormes. Ça m'est arrivé d'avoir des groupes où on avait des conflits fantastiques au même endroit, parce qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas quand elles sont si vraies, quand elles sont si fortes. Le tourisme a aussi appris, c'est peut-être à mon grand âme, à niveler certaines différences. Quand je dis niveler, c'est pour ne pas dire écraser. Mais il est vrai aussi qu'un tourisme mieux compris permettrait peut-être d'avoir ce genre de rapprochement qui permettrait d'en discuter ici à Genève, comme je vous en parle normalement. C'est-à-dire que tout à coup, ce sont mes propres amis qui sont capables d'avoir le même langage. Je crois que c'est seulement à partir de là qu'on pourra peut-être formuler une autre vision de l'autre. Mais pour cela, il faut aller un peu plus profond, il faut connaître... carrément toute la philosophie et tout ce qui se cache derrière. Donc ça n'est plus un simple déplacement, effectivement, c'est un autre regard.